Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Extrait de leur deuxième album intitulé A Rush of Blood to the Head, c'était la formation britannique Coldplay et la pièce The Scientist.
Alors maintenant, quelques articles tirés de journaux canadiens. Les jumelles Dionne reviendront à North Bay cet été. C'est un article écrit par Éric Boutillier, tiré du Voyageur. C'est un texte qui a été publié le 21 juin 2018. Annette et Cécile Dionne, les survivantes des quintuplés Dionne, seront à North Bay, la ville où elles ont grandi le 5 août. En présence de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et de la ministre de Parc Canada, Catherine McKenna, la cérémonie viendra souligner la préservation de la maison où elles sont nées en 1934 et reconnaître publiquement les jumelles Dionne comme événement historique du Canada. Peu après leur naissance, les quintuplés d'Elzire et Oliva Dionne, déjà parents de 5 enfants, ont été pris en charge par la province et élevés dans Queensland, une pouponnière avec des baies vitrées, qui s'est imposée comme grande attraction touristique de l'époque. La maison-musée avait définitivement fermé ses portes en octobre 2015. Divers scénarios avaient alors été envisagés localement, notamment le déménagement au Musée canadien des civilisations ou dans un village à une centaine de kilomètres au sud. Finalement, en novembre, le bâtiment a été déménagé au centre-ville de North Bay pour s'intégrer au musée local Discovery North Bay. Annette et Cécile nous ont appuyés pendant le processus, explique le président du Conseil du patrimoine des quintuplés Dionne, Ed Valenti. Elles ont été soulagées lorsque la ville de North Bay a renversé sa décision de déménager la maison à l'extérieur. Elles espèrent aussi que la province et le fédéral vont accorder un financement à long terme afin d'entretenir la maison-musée et préserver ce patrimoine, poursuit-il. Au cours de la commémoration, le gouvernement fédéral doit remettre à la ville et au Conseil du patrimoine des quintuplés Dionne une plaque officielle soulignant ce moment marquant de l'histoire du Canada. Nous avons plusieurs activités gratuites prévues le 5 août prochain, dont une cérémonie pour rendre hommage aux jumelles Dionne, de la musique et une présentation de certains artefacts du musée Discovery North Bay, selon Ed Valenti. La maison-musée ne sera pas ouverte pour autant, le site n'étant pas encore prêt. Le Conseil du patrimoine des quintuplés Dionne a récemment embauché une firme pour concevoir l'aménagement paysager autour de la maison Dionne. Les promoteurs espèrent que les travaux seront complétés d'ici 2019. Les sœurs seront de passage dans le Nipissing pour la première fois depuis 1998. Avec leur sœur Yvonne, elles avaient alors participé à une cérémonie semblable à la Chambre de commerce de North Bay, qui exploitait jusqu'à tout récemment le musée. Nouvelle qui a été donc publiée aujourd'hui même dans La Voix acadienne et qui s'intitule « Une nouvelle remorque de secours pour les pompiers de Wellington ». Pour être en mesure de faire leur travail de premier répondant, les pompiers volontaires de Wellington ont besoin d'outils et d'équipements. Grâce à une contribution appréciée du club des VTT de la région Évangéline, ils disposent maintenant d'une remorque adaptée au sauvetage loin des routes. Les pompiers de la région Évangéline sont désormais mieux équipés pour porter secours à une personne au milieu des bois. Le club des VTT Évangéline a spécialement conçu et construit une remorque pouvant être attachée à un véhicule tout-terrain pour faciliter les sauvetages en milieu rural. Les pompiers de la caserne Wellington ont chaudement remercié le club pour cette initiative le 12 juin, lors d'une soirée au cours de laquelle a été présentée la nouvelle remorque. Jusqu'ici, les premiers répondants ne disposaient d'aucun équipement pour secourir une personne dont l'emplacement est inaccessible par voie routière. Après avoir stationné leur camion, ils devaient transporter à pied la civière pour aller chercher et ramener la personne à un endroit accessible à un véhicule d'urgence. Le club des VTT Évangéline et la caserne de Wellington ont constaté l'important manque d'équipement après la simulation d'un sauvetage qui a été réalisé avec les pompiers l'an dernier dans la région. Voyant le nombre de membres augmenter dans le club, les amateurs de VTT, véhicules tout-terrain, ont pris les devants et ont entrepris de financer, concevoir et construire la remorque de secours sur mesure. On est très heureux que le club ait pris les devants parce que c'est quelque chose que nous n'avions pas dans notre budget. Même si c'était une préoccupation, explique le président et porte-parole Desmond Arsenault. Il y a de plus en plus de gens qui passent dans la région qui utilisent les pistes dans les bois. C'est un équipement très important, a-t-il ajouté. Le club des VTT a travaillé durant un an et demi sur le projet avant d'en faire don aux membres du service incendie local. La remorque de secours restera désormais en tout temps la caserne de Wellington. L'équipement, financé avec l'aide d'entreprises locales, a coûté environ 4 000 $. Dans le journal Le Métropolitain, en mai dernier, Le Métropolitain apprenait en primeur que le centre de santé communautaire de Rexdale, dans le nord d'Etobicoke, ou Coke, avait entrepris d'offrir des services en français. Je vous l'appelle E-T-O-B-I-C-O-K-E. Le lundi 25 juin, dans le cadre d'une conférence de presse, l'organisme a entrepris de mieux faire connaître ses initiatives à l'endroit des francophones en rassemblant à l'intention des journalistes les divers partenaires de ce projet. Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo, Julie Letête, directrice générale de l'Auberge francophone et Safia Ahmed, directrice générale du centre Rexdale, ont fait un bref historique du processus ayant mené à l'embauche en mars dernier d'un coordonnateur des services en français, Ferdinand Acpro. Aux ateliers et activités diverses organisées par ce dernier s'ajoutent les visites aux trois sites de l'organisme de la docteure Sonali Srivastana, un médecin bilingue. De plus, un secrétaire médical francophone a également joint l'équipe et le développement des services en français ne s'arrêtera pas là, car comme l'a expliqué Mme Ahmed, une attention accrue sera dorénavant accordée à la question linguistique dans la gestion du personnel. Kim de la Hunt, membre de l'équipe de direction du réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Ouest, était l'invitée spéciale de l'événement puisqu'elle représentait l'indispensable quatrième partenaire qui tient les cordons de la bourse. Mais c'est en fait un autre intervenant beaucoup plus connu des francophones qui a discouru quelques minutes, François Boileau, commissaire aux services en français de l'Ontario. Fait intéressant, Maître Boileau a mentionné que le centre Rexdale semble être en bonne position pour se faire désigner en vertu de la loi sur les services en français. Ce fait est important considérant que le commissariat a récemment produit un rapport dans lequel était noté le peu d'organismes de santé s'ajoutant à la liste des désignations. François Boileau a également souligné que les avancées pour les francophones au centre Rexdale était un excellent exemple de collaboration fructueuse entre intervenants issus de divers organismes, un point qu'ont aussi noté les autres participants à la conférence de presse.
Je porte des post-its comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Une voix sort de mes semelles et m'arrache les talons. Tu étais le voyage, moi le vent, aussi en bord d'une falaise norvégienne. Nous avons perdu la tramontane, étouffée dans la fumée de nos gitanes. J'ai replié mes blessures dans la tapisserie de ma vie et j'ai repris mon chemin. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Ton sourire glisse sur le bord de ma mémoire. trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur bien blotti dans ma poche de veston.
On vient d'entendre la chanteuse albertaine Ariane Marie Clemire et la pièce Post-it de son album Je deviens le loup.
Maintenant, c'est le segment Sujet libre, ça peut être art de vivre. Et j'ai choisi de lire un article de Nathalie Petrovski intitulé « La cloche de verre doctrinaire ». Qu'est-ce qui cloche avec le prochain spectacle de Betty Bonifaci? Demandait Marie-Lou Kraft dans un statut Facebook repris par le magazine Urbania. C'était en décembre dernier, soit exactement 6 mois avant la première au TNM de Slav, un spectacle de chants d'esclaves, d'ouvriers, de prisonniers, noirs du sud des États-Unis, archivés par 2 ethnomusicologues américains, déterrés et interprétés par Béatrice Bonifaci et mis en scène par Robert Lepage. À noter, si le projet dans sa forme actuelle est nouveau, cela fait plus de 5 ans que Betty Bonifaci interprète ses chants sur 2 disques, Betty Bonifaci et Lomax, et dans un spectacle qu'elle a trimballé un peu partout, y compris au Festival de jazz. Inutile de préciser que l'arrivée dans le décor de Robert Lepage a fait basculer ce simple tour de chant dans une dimension épique et théâtrale. Il n'en demeure pas moins que 6 mois avant que naisse cette œuvre, 6 mois avant qu'on sache quelle forme elle prendrait et qui, hormis Bonifaci, en ferait partie, Marie-Lou Kraft, diplômée de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, critique, auteure et occasionnelle commentatrice à la radio, décrétait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cette création. Quoi, au juste? Pour résumer la pensée de cette militante de la diversité qui lutte contre le privilège blanc, comme elle l'a écrit elle-même dans une lettre fort percutante publiée dans la presse il y a 2 ans, disons que l'idée de Slav la dérangeait parce qu'il s'agit d'un spectacle portant sur des esclaves noirs montés et chantés par des blancs. Madame Kraft ajoutait qu'avec sa formation et son parcours de critique, il était normal, voire légitime, qu'elle pose des questions sur le discours de ce futur spectacle, qui, bien qu'en gestation, en disait déjà long sur notre société, selon elle. « Je sais un peu ce qu'ils enseignent à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, puisque mon fils y a fait son bac, mais j'ignorais qu'ils encourageaient les étudiants à critiquer les spectacles avant même qu'ils existent », écrit Nathalie Petrovski. « Me semble que la première chose que l'ex-étudiante aurait dû faire avant de poser ses objections, c'était d'attendre que le spectacle soit monté, non? La deuxième chose qu'elle aurait aussi pu faire, c'est émettre ses doutes et ses critiques. Non pas il y a 6 mois, mais il y a 4 ans, à la sortie des 2 albums de Betty Bonifaci ou après avoir vu son tour de chant. Car hier comme aujourd'hui, Betty demeure une blanche interprétant des chants d'esclaves noirs, ce qui semble être un crime de nos jours. » Mais il faut croire qu'à ce moment-là, notre critique avait d'autres chats à fouetter ou d'autres spectacles pas encore nés à critiquer. Ou peut-être avait-elle déjà compris qu'il n'était pas idéologiquement rentable de s'en prendre à une chanteuse de la marge qui se tuait à diffuser des chants que personne ne voulait entendre. Pour avoir un maximum d'impact et de clics, il lui fallait s'en prendre à un symbole éclatant du pouvoir dominant mâle, occasion en or que lui a fourni le grand Robert Lepage, bien malgré lui, il y a 6 mois. La dernière chose encore plus importante que cette jeune dame aurait dû faire avant de coucher son indignation par écrit, c'est de s'informer de la genèse de ce projet, au lieu de s'en tenir aux déclarations de Betty dans les médias. S'informer avant de prendre position, c'est la moindre des choses si on ne veut pas dire trop de conneries. Or, si notre critique avait fait ses recherches, elle aurait découvert que Betty Bonifaci traîne ses chants d'esclaves et de prisonniers noirs dans sa besace depuis 1998, année où le metteur en scène Pierre Collin l'a chargé de trouver des chants de travail des années 30 pour la production du classique de Steinbeck, Des souris et des hommes. C'est à cette occasion que Betty a découvert que ces chants patiemment recueillis, enregistrés et archivés par Allen et John Lomax deux blancs, et oui, désolé, dormaient sur les tablettes du musée Smithsonian à Boston. Betty est revenue de Boston avec un CD sur lequel elle avait fait graver un premier chant qui n'a finalement pas servi à la pièce, mais qui s'est, pour ainsi dire, fiché à jamais dans son cœur et sa conscience. Un vieux disque usé jusqu'au sillon et trouvé dans une brocante est venu agrandir son répertoire de chants d'esclaves, répertoire auquel Betty refusait de renoncer malgré l'indifférence qu'elle rencontrait quand elle en parlait. Et puis, par miracle, Betty a réussi à convaincre DJ Champion d'enregistrer certains de ses chants, dont le poignant No Heaven, sur Chillam Hall, un CD qui a fait époque. Tout aurait pu s'arrêter là, mais Betty s'est entêtée. Ses chants, à la fois douloureux et résilients, la hantaient. Elle refusait de les abandonner et surtout, elle souhaitait les faire entendre au plus large public possible. Tout cela pour dire que ces chants auxquels Betty rend hommage n'auraient jamais connu de rayonnement ni de diffusion sans ses efforts. C'est par sa voix et sa détermination que ces chants, à la fois noirs et lumineux, ont été rappelés à notre mémoire au lieu de sombrer dans l'oubli. Lui en faire le reproche est aussi absurde que de reprocher aux deux ethnomusicologues blancs de les avoir enregistrés pour qu'ils ne soient pas oblitérés par l'histoire. Quoi, parce qu'ils étaient blancs, les Lomax auraient dû s'abstenir? Franchement, le combat pour la diversité et pour l'inclusion des minorités sur les scènes d'ici est un combat important qui a connu jusqu'à maintenant quelques trop rares percées. Nous tous sommes de plus en plus conscients que les minorités du Québec sont sous-représentées sur les scènes et sur les écrans, et qu'il est urgent de leur faire la place qui leur revient, pas par charité, mais pour un portrait plus juste et diversifié de notre société. Mais ce n'est pas rendre service à ce combat que de tout mélanger et d'attaquer ceux qui, aussi blancs et privilégiés fussent-ils, font un réel effort pour créer des ponts et encourager l'inclusion. S'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire, c'est le discours plus répandu qu'on pense qu'incarne Marie-Lou Craft. Ce qui cloche, c'est d'être à ce point aveuglé par le fanatisme qu'on ne fait pas la différence entre ses ennemis et ses alliés, et que, même face à un hommage sincère, on préfère verser dans la victimisation plutôt que de reconnaître une victoire. Ce qui cloche, en fin de compte, c'est cette cloche de verre sous laquelle on s'enferme pour empêcher l'air d'entrer et d'ébranler une pensée doctrinaire. Voilà, c'est tout pour le quotidien des quotidiens. On a terminé à midi. Ce sera ici jusqu'à jeudi pendant tout l'été. Ici Hélène Denis qui dit aussi un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde et au choix musical. Et je vous laisse avec une pièce instrumentale. Ça va être comme notre tradition de l'été. Lorraine Desmarais, Big Band et son Big Band dans la pièce Real. Bonne journée, à demain.